Bonjour à toutes et à tous. Alors bienvenue surtout aussi à Mario Rega, qui est ingénieur d'études au Centre de climatologie de l'Université de Bourgogne et qui intervient à ce titre aujourd'hui et qui va être en présence du coup de Nathan Carrel, l'artiste qui a réalisé cette exposition dans laquelle vous prenez place aujourd'hui. Voilà, Nathan, c'est un jeune artiste diplômé de l'EMA Fructidor, l'école d'art de Chalon-sur-Saône, et qui a aussi fait des études de paysagisme avant ses études aux Beaux-Arts. Voilà. Et je vais les laisser se présenter un petit peu plus précisément et discuter aussi entre eux autour de thématiques communes, finalement, puisque c'est le principe de ces conversations, c'est-à-dire de faire en sorte que le champ de l'art rencontre d'autres champs d'études et d'autres types, d'autres domaines, finalement, et que les échanges puissent être féconds. Donc, merci à vous.
Bonjour, du coup, comme l'a dit Soline, moi c'est Nathan Carême. J'ai fini les Beaux-Arts il y a 3 ans et aujourd'hui me voilà ici grâce aux ateliers Vortex. J'ai un travail qui navigue entre un univers un peu post-apocalyptique et le paysage aussi. Et la lumière, en fait, du coup, quand on m'a dit que j'allais faire une conversation, c'était un peu évident pour moi, qui vit aussi dans les facs de sciences, parce que mon père, qui est ici, est gardien des facs de sciences de Dijon, c'était évident pour moi de monter en haut de ce bâtiment dans lequel je vis et d'aller chercher aussi la lumière que je suis venu chercher ici, mais d'aller chercher Mario, qui, lui, est au dernier étage du bâtiment et qui est en climatologie. Et voilà, enfin...
Non, c'est chouette. Bonjour à tous, moi c'est Mario Rega, je travaille en tant qu'ingénieur au Centre de climatologie à l'Université de Bourgogne. J'ai bien découvert cet espace aujourd'hui. Donc l'idée que je me suis, que j'avais en tête, c'était celle de découvrir les lieux aujourd'hui sans avoir des a priori, pour essayer de garder un peu la spontanéité de l'échange qu'on va faire avec Nathan. Et je travaille d'habitude justement sur la climatologie, sur le climat, en tant qu'ingénieur. Donc mon travail, c'est celui d'essayer de trouver les outils et de mettre en place les mesures, les réseaux de mesures, pour pouvoir après permettre aux chercheurs de faire leur travail. En gros, c'est un peu une terre de milieu entre la recherche, la technique, la débrouille, parfois la réalité, parce qu'on est confronté toujours à des difficultés qui sont liées à les installations qui changent en fonction des lieux. Et j'ai trouvé intéressant justement l'opportunité de me confronter avec un artiste qui est aussi quelqu'un qui est à l'interface avec son esprit, son art, la matière et les sentiments qu'il a envie de transmettre. Et donc, je me suis dit, ça va être super chouette, ces rencontres ensemble. Donc, c'est cool. Et je remercie l'Atelier Vortex et je remercie Nathan de m'avoir invité. Et j'espère qu'on ne va pas vous ennuyer. Si vous avez des remarques ou des choses à dire, n'hésitez pas.
Oui, la discussion est ouverte. Si vous avez des choses aussi à dire, on est là aussi, c'est une discussion, donc voilà. C'était drôle parce que quand j'ai rencontré Mario, je ne savais pas non plus à quoi m'attendre. Et tout de suite, on a senti qu'il y avait des choses qui se rapprochaient. Parce que finalement, moi, je parle pas de climatologie à proprement parler, mais je sais pas, on a tout de suite parlé de chaleur et de lumière et de vent, parce que du coup l'exposition s'appelle Meunier Tudor, et il y avait cette idée du moulin qui tournait trop vite et du moulin qui s'emballe. Et peut-être que toi aussi dans ton travail, est-ce que tu ressens aussi cet emballement des choses, est-ce que tu sens aussi ce moulin qui tourne trop vite et qui est prêt à exploser, je sais pas, mais enfin,
c'est moi j'ai... C'est chouette, oui, effectivement, il y a cette sensation d'urgence dans ces derniers temps, quand au final c'est un problème qu'on se porte depuis très longtemps, on est confronté avec la nature depuis notre arrivée sur la Terre, on va dire comme ça. Mais c'est vrai que sûrement ces derniers temps, on sent de plus les problèmes, on voit de plus en plus le climat avoir un impact sur nos vies quotidiennes, sur nos choix, et sachant que finalement, ça a été toujours le cas d'une certaine manière, dans le sens qu'on a été toujours confronté à des choses plus grandes que nous, et on est toujours porté à s'adapter un peu à ce qui se passe au-delà de notre tête, on va dire que ça, au-dessus de notre tête. Et par contre, c'est vrai qu'il y a un aspect justement temps qui passe et incapacité de ressortir un petit peu, de faire de nouvelles choses, que moi je trouve un peu effrayant. Et ça, on le ressent un peu aussi dans tes œuvres, dans les choses que tu montres ici. Et par contre, moi, la chose que je trouve importante, et ici je vous demande aussi ce que vous en pensez, hein, c'est qu'il faut vivre avec conscience, et il faut faire attention, il faut pas oublier qu'on est part d'une sphère vivante, on va dire comme ça, où on n'est pas tout seul, où il y a la nature dans sa globalité, mais il faut pas non plus paniquer par rapport à ça, je trouve. Dans le sens qu'il faut faire attention, il faut avoir respect, il faut ne pas tout détruire, mais en même temps essayer aussi de ne pas avoir peur à faire des changements. Parce que la peur, c'est un grand frein, je trouve que c'est la peur qui freine les changements en fait. Donc il faut trouver une manière de réorienter notre conscience et nos peurs pour aller devant. Moi, une chose à laquelle je suis confronté tous les jours, c'est l'innovation. Je suis confronté à des outils plus performants qui arrivent à, je ne sais pas, le thermomètre qui arrive à détecter le 0,00001 Celsius de la température de l'air, ou des appareils qui ont une précision énorme. Mais après, au final, je me dis, est-ce qu'on ne se perd pas en regardant trop le détail? Est-ce qu'on va chercher parfois des choses qui sont très éloignées de nous pour éviter de regarder ce qu'on a autour, pour essayer de se cacher un peu le visage? C'est un peu comme je sais pas, un cheval qui met les... Comment ça s'appelle? Les... Merci, les œillères. Et qui se concentre sur quelque chose et après qui oublie tout autour. Et ça, je trouve un peu dommage, quoi.
Bah finalement, dans ton travail, t'es pas orienté dans un certain type de recherche. En fait, t'es dans plein de domaines différents.
Oui, non, c'est sûr, c'est sûr. Et ça, c'est un peu l'avantage du travail d'ingénieur plutôt que le travail du chercheur, par exemple. C'est que j'ai la possibilité et la chance de travailler avec plein de chercheurs. Et donc, je travaille justement sur la vigne, je travaille sur la ville, je travaille sur la pluie, sur le soleil, et sur plein de choses qui sont intéressantes. Et un peu, mais c'est pour ça, en fait, que j'avais pris un peu quelques objets, et que c'est rigolo parce que je trouve qu'ils font écho avec certains des œuvres
Il
que tu as
y a la
ici.
parabole qui est juste
Oui,
là.
complètement.
Enfin, on a la lumière naturelle aussi qui régit toute l'exposition. Donc en fait, quand il fait pas beau, on est quasi dans la pénombre. Dès qu'il y a un rayon de soleil, il y a la lumière qui tape sur les sculptures. J'avais vraiment envie de garder comme ça, que la météo en fait soit présente et ne soit pas cachée par les néons électriques qu'on allumerait, et que l'exposition vive aussi de cette manière-là, et qu'on ait conscience aussi de ce qui se passe au-dessus de nos têtes au sein de l'exposition.
Et du coup, c'est pour ça que la lumière, ça vient que du haut, en fait.
Ouais, parce qu'à
D'accord.
l'origine, du coup, c'est des fenêtres qui sont ici.
D'accord.
Et j'avais vraiment envie de donner cette idée d'être sous le sol et d'être enseveli sous une sorte de nuée ardente qui est venue nous balayer, et qui reste uniquement cette vision vers le ciel et vers le haut. J'ai déjà dit, mais il y avait le grondement en fait tout à l'heure qu'on a coupé, mais j'ai un travail aussi qui est un peu dans ce champ lexical de quelque chose qui s'ébranle, de quelque chose qui gronde sous nos pieds. Mais en même temps, le ciel est important aussi, je pense. Et du coup, pour moi aussi, tu représentes d'une certaine manière ce qui est au-dessus du sol. Mais je sais pas du tout si toi, par exemple, le sous-sol aussi te fait partie aussi prenante de ton travail. De quelle manière
Le sous-sol, oui, d'une certaine manière, oui, bien sûr. En fait, ça dépend qu'est-ce que tu veux dire pour sous-sol. C'est tout est relatif. Le sous-sol, dans un champ, c'est le terrain. Et par exemple, ça peut être les réserves d'eau qui sont à l'intérieur du terrain, la ressource qui permet aux plantes de pousser. Ou encore, dans une ville, ça peut être les réseaux qui sont enterrés, qui sont enfouis et cachés, et dans lesquels nous, on ne fait pas trop de recherches dans ce type de milieu. Mais par exemple, sur les ressources eau, il y a plein d'études qui sont faites à la fois dans la campagne, agriculture. Très souvent, ils sont les agriculteurs même qui essayent de demander, ils sont demandeurs pour des études sur la réserve à eau, sur la capacité des plantes de pouvoir survivre à de la sécheresse. Et
On a ma plante, ma rose de Jéricho là-bas
mais oui, tout à fait.
qui est asséchée et qui attend que de l'eau pour revivre. Et ça fait écho à ça.
Exactement, exactement, exactement. Donc oui, donc d'une certaine manière aussi les choses dont on a entendu parler il y a quelques semaines, je pense que on n'avait plus d'eau, on craignait un été vraiment de sécheresse extrême. Là, les choses semblent être un peu ajustées. Mais après, sous-sol, non, c'est un peu ça. Mais ça me fait penser beaucoup à l'eau, en fait, le sous-sol, c'est bizarre. Et à une époque, et justement, ça, on peut penser aux stalactites qui étaient installées aussi. Et qui sont dans les caves, dans les grottes. À une époque, j'étais spéléologue, je pense que je te l'avais dit, hein, quand j'arrivais encore passer dans les trous. Hein, maintenant, c'est plus le cas. Mais bon, c'est beau de découvrir la dimension, une énième dimension à laquelle on pense pas forcément. Justement, la profondeur, les entrailles des montagnes ou des endroits cachés. C'est chouette. Et une autre chose qui m'avait qui m'a frappé quand je suis rentré ici, c'est en fait, on a la sensation d'être dans un endroit où il y a eu un orage ou une grosse tempête de vent qui a éparpillé un peu la l'ouate que toi t'avais bien rangée peut-être dans un coin et que maintenant elle se retrouve un peu de partout. Et donc, c'est un peu, ça me fait penser au vent. Et donc, je sors un des premiers articles que j'ai amené. Parce que je fais le malin moi aussi. Je me suis dit, je vais pas forcément avec mes mains vides. Et donc, j'ai amené tout simplement. Comment s'appelle ça? Bah, très bien, vous êtes des champions. Donc, ça, c'est un instrument assez basique. On peut l'utiliser tout simplement avec l'œil. On regarde s'il indique le nord, le sud, et on sait d'où vient le vent. Mais. Le matériel un peu plus de précision qu'on utilise en recherche, en fait, il est basé par des capteurs à l'intérieur. Il y a un potentiomètre, donc c'est une petite résistance électrique qui devient plus grande ou plus petite en fonction de ça qui tourne, on va dire comme ça. Et ça permet, en mesurant l'intensité électrique, d'avoir une idée d'où ça vient le vent. Donc à zéro, c'est le nord, et après, on fait le tour à 360 et donc on a la direction du vent. Et c'est super chouette parce que ça, je l'aime beaucoup cette aigrette. C'est une aigrette de la Simmel, c'est une très bonne marque française, utilisée par Météo France si ça vous intéresse. Au moins à l'époque, je pense qu'ils sont restés encore sur ce type de matériel et ça a des roulements à l'intérieur qui sont magnifiques. Si on la met à l'envers et on fait tourner ça, on peut attendre, je sais pas, un quart d'heure, 20 minutes avant qu'il s'arrête. C'est un truc incroyable. Et là, en théorie, il faut être bien droit pour éviter des frottements plus d'un côté, plus d'un autre. Mais c'est incroyable. Donc, comme quoi, parfois, la technologie, la technique, ça aide à faire des bonnes choses. Donc, bon, ça fait pas forcément, comment dire, objet artistique, mais moi, ça me fait penser un petit peu justement à le vent qui a dû pousser ta boîte de chelouse vers les sorties, ou à l'envers, qui l'a poussé à l'intérieur. Et après, ça me fait penser d'une certaine manière aussi à la parabole. Parce qu'il y a ce
Bah, presque les
mouvement.
mouvements
Exactement.
d'atmosphère, de dépression et de tout ça, en fait, c'est vraiment l'idée de recréer ces mouvements qui régissent aussi le ciel. Et voilà, c'était pour moi, en fait, ce mouvement, il est présent de plusieurs manières dans l'expo. C'est l'idée de tourner en rond. On a la scolopente qui se recroqueville sur elle-même. On a les cordages qui ont été roulés. On a la parabole. Il y a aussi la plante qui est venue se recroqueviller. Enfin, il y a toute cette idée de mouvement circulaire et de se reposer, de se soigner peut-être aussi, qu'on retrouve aussi dans ta girouette,
C'est ça.
qui peut tourner. Mais ouais,
C'est rigolo. Non, mais c'est chouette. Justement, c'est pour ça que j'ai trouvé intéressant cet échange aussi, parce que on parle de choses. En fait, c'est un croisement justement de deux mondes. Moi, j'ai pas forcément l'habitude de me confronter avec quelqu'un qui a un regard artistique, une lecture artistique de la réalité. Même à l'université, on est entouré des gens qui, pour le moment en sciences, qui ont une vision assez, comment dire, mathématique de la réalité, assez basique. Donc ça c'est rectangulaire, ça c'est triangulaire, ça c'est comme ça, la physique c'est ça. Et là, l'interprétation de quelqu'un qui a une vision complètement différente de la mienne, ça je trouve ça génial, ça m'apporte plein, plein, plein de choses. Donc c'est pour ça que je trouve ces échanges super intéressants d'ailleurs. J'espère.
Ouais,
Et la lumière ici, en fait, c'est que les quatre puits, et donc tout caché, tout caché, tout caché, après ça.
ouais, en fait, bah, ça c'est une pièce que j'ai créée en fait avec une lanterne que j'ai récupérée, et la chaîne c'est une chaîne que j'ai pêchée en fait dans la Saône à Léman, et j'avais envie de créer cette sorte de chimère, de cette lumière qui peut aussi nous hypnotiser et nous attirer. Donc c'est une ampoule qui sort d'une lampe pour tuer les moustiques en fait à l'origine, que je suis venu coupler du coup dans cet objet un peu ancien qui sortirait d'un grenier, parce que pour moi aussi cet espace il est un peu comme un grenier. Et ça s'appelle Belle de Nuit parce qu'il y avait cette idée de cette fleur en fait qui attire la nuit les insectes, et là on est dans la lumière et dans quelque chose qui devient presque une sorte de joyau, quelque chose qui attire l'œil dans l'espace d'exposition. C'est une des seules, avec l'autre, source d'électricité. Et j'avais envie quand même de ramener cette lumière électrique, mais qui nous tue en fait. On a la veilleuse là-bas qui est sur le point de s'enflammer. On a cet objet qui, si on s'en rapproche trop, nous électrocute. Finalement, la lumière du ciel, c'est la lumière qui nous soigne peut-être, ou qui je sais pas.
Non, mais c'est. Alors, moi, bêtement, quand je regarde la lumière, je pense à ça. Petit panneau photovoltaïque. Bon, ça, je vous l'explique pas, hein. C'est un panneau. Ça va. Je pense à ça aussi. Wow. Ça va être super chouette à l'enregistrement. Ça. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait qu'est-ce que c'est ça? Non? Une idée?
Une soucoupe volante.
C'est exactement ça. Exactement, exactement. C'est un pyranomètre. Donc, il y a une petite cellule en silice à l'intérieur qui est excitée par la lumière, même comme ça du panneau solaire en gros. Donc, et en fait, on arrive à mesurer la radiation lumineuse en watts par mètre carré. Bon. C'est des outils qui sont bien pratiques justement pour essayer d'estimer l'ensoleillement et évaluer justement les conditions lumineuses, soit à l'intérieur, soit à l'extérieur. Mais qui, par contre, qui dans un spectre assez restreint. On a d'autres capteurs pour essayer d'évaluer l'ultraviolet, l'infrarouge et des trucs comme ça. Mais c'est très utile. Et moi, je l'ai amené ça aussi parce que ça fait un peu objet bizarre, en
Oui,
fait. On est d'accord.
bah moi c'est ce genre d'objet, c'est exactement. Parce qu'en fait, il y a des objets que j'ai récupérés dans les facs où travaille Mario. La parabole vient de là-bas. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Non, il n'y a que ça. Mais en tout cas, j'ai tendance aussi à récupérer comme ça des objets de scientifiques et des objets qui sortent de ces milieux-là. Et moi, j'essaye aussi de les modifier. Et moi, je vois des pièces artistiques dans les objets que tu as ramenés. Et ça m'inspire beaucoup.
Il faudra que
Enfin.
je fasse gaffe à la première fois. Et par exemple, le lit derrière.
Le lit, c'est un lit que j'ai. Enfin, c'est une table médicale que j'ai récupérée dans une station thermale abandonnée. J'ai une pratique aussi comme ça de l'exploration, de l'urbex. J'essaye aussi d'enrichir mon travail avec des objets que je trouve et des choses que je récupère comme ça, que j'essaye de modifier et de créer des sortes de chimères ou des choses comme ça qui sont entre l'objet industriel et l'objet manuel. Voilà.
Et pourquoi un escargot?
C'est une limace.
Hein?
Limace.
Limace?
Ça peut être un escargot, ça
Je
peut
sais
être une
pas, je
limace.
suis pas bon en animaux bizarres.
J'avais choisi ce choix de la
Limace.
limace parce que tout bêtement, à l'origine, c'était vraiment quelque chose un peu drôle. C'était que je trouvais que les gens qui se faisaient soigner, les gens dans les stations thermales, on avait cette sorte de détente extrême qui nous amenait à avoir une posture un peu langoureuse et avoir quelque chose comme ça d'une extrême détente. Mais du coup, sur la table, on est presque aussi sur la table de torture. Et pour moi, on est dans une sorte de statue comme ça où on ne sait pas si on est en train de se détendre ou si on est en train de vivre une sorte de torture. Et pour moi, la limace, elle symbolisait bien cet état d'entre-deux qui se retrouve aussi dans le titre du coup de l'expo. Voilà, enfin, pour moi, on est actuellement dans cet état que, pour moi, on est cette limace sur cette table de torture et on est dans. Enfin, je sais pas si tu te sens limace, mais.
Pas aujourd'hui, pas spécialement aujourd'hui, mais ok. Non, 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 mais d'accord, une limace. Moi, je me souviens la première fois que je suis venu en France, c'était en 2008. Bon, vous l'avez compris, je ne suis pas forcément dijonnais. Je suis arrivé ici pour la recherche en 2008 depuis l'Italie. Et moi, je ne connaissais pas les limaces, en fait. Je n'avais jamais vu. Je suis originaire du sud de l'Italie, plutôt citadin. Donc, je n'avais jamais vu de limaces. Et quand j'ai vu des trucs orange comme ça dans un bois, j'ai fait, oh, c'est quoi ce truc? Donc, ça fait bizarre de l'avoir, de voir, comment dire, une super œuvre dédicacée, non, comment dire,
Pour cet animal.
pour cet animal, c'est ça, pour mettre à l'honneur cet animal qui parfois il n'est pas tout à fait comment dire, apprécié en général. Mais bon. Et non, mais la chose qui, au-delà de la limace et tout, la chose que moi je ressens, que j'ai ressenti en rentrant ici et que je continue à sentir quand même un petit peu, c'est quand même une certaine inquiétude, une certaine préoccupation, une certaine peur. C'est un peu, on revient à la peur dont j'étais parlé, dont j'ai parlé avant. En fait, je ressens je sais pas, un désastre nucléaire qui arrive. Je ressens une préoccupation vraiment qui m'angoisse limite. Donc c'est ça.
Bah du coup, c'était l'idée en fait aussi de créer cette atmosphère un peu inquiétante pour aussi emmener les gens dans cette peur. Mais finalement, Je ne sais pas si c'est mauvais, mais pour moi, c'est aussi quelque chose dans mon travail que j'aime bien aussi mettre les gens dans cette ambiance un peu post-apocalyptique de cette idée de catastrophe qui arrive et qui est imminente, mais qui reste quand même apaisée et qui est à l'arrêt. On a les animaux qui peuvent peut-être sortir tout droit d'il y a des millions d'années, qui ont été fossilisés. Et puis voilà, j'essaye de recréer un peu cette atmosphère de post-catastrophe. Et peut-être que ça fait peur, mais je sais pas si. Enfin, moi, en tout cas, ça me fait pas peur, mais. On a. Ouais.
Moi, je sais pas. Moi, d'un côté, j'aime ça, j'aime bien ça, hein. J'aime bien cette type d'atmosphère. Je suis probablement comme une partie des gens qui sont là. J'ai grandi avec Blade Runner, avec des images un peu futuristes, un peu en déperdition, ça se dit, un peu comment dire, en décadence. Et c'est quelque chose que j'ai imprimé dans moi et j'aime bien. Bien sûr, j'étais petit, mais j'étais capable de comprendre quand il y a eu Tchernobyl, par exemple, ou d'autres désastres qui ont d'une certaine manière marqué mon esprit en tant que jeune et après jeune adulte et après à la suite. Et donc je retrouve un peu cette inquiétude-là et c'est un peu ça m'étonne parce que je me dis, toi tu es d'un autre âge, d'une autre époque. Et vous n'avez pas forcément vécu ces types de gros catastrophes, peut-être quelque chose, mais je ne sais pas, peut-être j'en ai tendance à idéaliser les choses les plus anciennes et moins les choses d'après. Et du coup, ça me préoccupe un petit peu le fait de savoir que dans les générations suivant la mienne, quand même, il y a eu cette préoccupation qui s'est instaurée à l'intérieur. Et ça me fait quand même dire dommage parce qu'on a toujours envie que les jeunes générations soient plus confort, plus joyeuses, plus projetées vers l'avenir, on va dire comme ça. Et donc d'un côté, si, je répète, j'aime beaucoup cette atmosphère. Par contre, de l'autre côté, ça me pose des questions. Je me dis comment on est possible qu'on ait toujours à se poser les mêmes questions, on est toujours dans ce type de recherche et on est toujours confronté à les mêmes peurs quoi parce que je sais pas si quelqu'un se souvient de Tchernobyl mais on s'est posé 10 000 questions, on s'est posé le nuage arrive, est-ce qu'on pourra manger d'ici à demain les légumes, est-ce qu'on pourra un jour ou l'autre retrouver notre normalité par rapport à ce type de désastre. Moi, je me souviens de ma mère qui se posait des questions si acheter ou pas certains légumes pour ses enfants, quoi. Donc, je me dis, là, on se retrouve un peu dans la même atmosphère, bah,
En fait,
d'une certaine manière.
je m'en nourris, hein. Enfin,
Pardon?
je me nourris de tout ça aussi. C'est des images et des choses qui me plaisent, entre guillemets, mais c'est des choses aussi que j'aime bien réactiver et que j'aime bien aussi mettre les gens à l'intérieur des films catastrophes, mais que la catastrophe est peut-être pas encore arrivée, mais peut-être que. Enfin, je sais pas, j'ai pas d'avis sur la question, mais j'aime bien rejouer en fait ces films catastrophes et de
D'accord.
donner aussi mon point de vue sur ces choses-là. Je dis pas que on va tous mourir, mais je pense pas que c'est ce que dit l'expo, mais voilà, j'aime bien recréer aussi c'est mes propres peurs aussi. C'est, je pense que dans notre génération, on a un peu tous les mêmes peurs et peut-être que c'est pas, je sais pas, je le partage avec les gens de mon âge, je pense. C'est des choses qui ressortent inévitablement, je pense.
Je te répète, moi, ça me fait quand même, ça me pose la question. On est toujours en train d'avoir les mêmes peurs. On est toujours en train de se confronter avec des réalités. Finalement, je dirais que le titre de ton expo est bien, 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 bien trouvé, quoi, parce que
Bah, on a ce moulin qui tourne trop vite.
Mais oui,
Qui,
mais oui, c'est clair.
pour moi, on est dans le moulin là, en fait. On est dans ce moulin qui tourne trop vite avec cette poussière de farine qui se soulève et on a l'étincelle là-bas qui peut tout enflammer. C'était aussi cette idée de recréer ce que dit cette comptine ancienne ici.
Que j'ai découvert grâce à toi, parce que moi je ne le connaissais pas. En Italie, on ne l'a pas. Désolé. Et d'accord. Et bah, chouette, chouette. Et bah, j'en profite pour te montrer encore un truc. C'est un peu en fonction de la température qui chauffe et donc de la. Comment dire, de la petite étincelle qui peut faire tout brûler et qui peut faire partir le moulin en feu. Donc, je pense à la température notamment. Et ça, c'est pas un capteur de température, mais c'est ce qui l'abrite. C'est un abri de température. En fait, on met à l'intérieur les capteurs qui servent à mesurer la température. En gros, un capteur de température, c'est un fil avec un bout en métal. Je me suis dit. C'est pas super chouette et pas, ça parle pas beaucoup, donc j'ai amené que la partie abri parce que ça a quand même une forme un peu bizarre, c'est intéressant. Donc pourquoi on met les capteurs dans un abri? C'est parce que en général on souhaite mesurer la température de l'air, avec ça on mesure la température de l'air, et en fait pour mesurer la température de l'air, on ne veut pas mesurer le corps qui chauffe par exemple. Donc, si on mettait le petit capteur en plein ciel, en plein champ, le capteur il va chauffer lui-même par la radiation lumineuse. Et donc, ça permet justement de faire passer l'air à l'intérieur des petites ailettes qui sont là et d'abriter le capteur de la lumière directe, mais aussi indirecte. En fait, vous le savez tous, chaque matière absorbe la radiation lumineuse et la réenvoie. Donc, elle peut renvoyer. Souvent, le soir, on a l'inversion, donc on a la chaleur qui commence à sortir de là où a été accumulée. Mais en fait, en gros, ça permet ces petits instruments d'abriter de la lumière directe et de la lumière indirecte. Et c'est pour ça que les ailettes, ils ont un petit angle. Que ça permet justement de protéger le capteur de la lumière qui arrive droite, qui arrive de côté, mais aussi réfléchie par le bas. Si vous avez fait un peu de neige, vous savez bien, ben un peu de ski, vous savez bien que la lumière du bas, ça peut être vite, comment dire, très forte si on ne fait pas attention. Donc ça, et je me suis dit que aussi, ça peut être un peu une source, une inspiration pour toi. Donc c'est pour ça que j'ai amené ça.
Non, puis aussi la matière qui est utilisée, c'est une matière qui isole à l'origine les maisons.
Ah, yes.
Et il y avait aussi cette idée de d'une certaine manière, bon, je pense pas que ça l'a fait énormément, mais je sais pas, peut-être Joanne l'a remarqué, je sais pas, mais il y avait aussi cette idée de réchauffer l'espace et d'essayer aussi d'étouffer, de changer aussi la température et le. Et comment l'espace est ressenti. Et c'est aussi pour ça que j'ai utilisé cette ouate de cellulose qui est utilisée en isolation.
Et c'est intéressant ça, qu'est-ce que tu dis, parce que c'est une des questions que j'étais en train de me poser avant d'arriver ici. Je me disais, bah, est-ce qu'il a pu jouer avec la température? Parce que c'est quand même une question que je trouve super intéressant et que c'est justement quelque chose que je trouve détonnant. Je travaille pour un observatoire national sur le climat de la ville, par exemple. C'est un petit observatoire qui est basé sur des villes françaises, un peu de partout. Il y a Nantes, il y a Lyon, il y a Rennes et Dijon aussi. Et en fait, on essaie de mesurer un peu qu'est-ce qui se passe dans les villes. Et parce que d'un point de vue climatique, justement, dans les villes, on a comment dire, des systèmes qui sont fermés, dans lesquels les conditions ont été modifiées par l'homme. Et du coup, on se retrouve avec des conditions de température parfois qui sont très bizarres. Ici à Dijon, on a par exemple un petit îlot de chaleur, ça s'appelle comme ça, îlot de chaleur urbain, que nous on mesure régulièrement. Ici, j'ai une centaine de ce type de capteurs, ils sont carrés dans toute la ville. Si vous regardez dans un, si vous voyez dans un lampadaire un truc rectangulaire comme ça, c'est ma faute. Et en gros, en fait, ça nous permet de monitorer un peu la température qui est dans la ville de Dijon et faire des comparaisons, par exemple, avec d'autres villes et essayer d'aller devant et de découvrir plus, en fait. Et on a vu que, quand même, il y a une sacrée différence entre l'extérieur et l'intérieur, chose que plus ou moins tout le monde s'en aperçoit. Mais nous, on essaie de le quantifier, de le mesurer et d'évaluer s'il y a des impacts différents en fonction des lieux. Et donc, oui, la température, c'est présent ici. Et c'est une des questions que je me posais, en fait. C'est... Oui, vous avez le droit, monsieur.
Vous avez un droit de parler au niveau de la ville de Dijon pour boiser plus une ville ou rajouter des arbres, des espaces verts, des trucs comme ça, pour limiter la température urbaine?
Alors, une des choses qu'on a pu mettre en évidence dans les dernières années, c'était qu'en fait, les espaces verts, ils ont un impact, c'est sûr, mais les gros espaces verts, ils ont un gros impact. En fait, les petits parcs, les petits endroits où on met quelques plantes, ça n'a pas forcément un grand impact sur la température. C'est ce qu'on a pu voir et c'est assez logique aussi, d'une certaine manière. Et notre apport par rapport à l'urbanisation, par rapport à le PLU et tout le reste, c'est minimum. Mais nous, on a, on a envie d'apporter cette information et on a envie d'essayer de donner une autre option justement pour faire des jugements et faire des choix. Et il faut dire qu'ici à Dijon, on a quand même de la chance parce que la métropole, elle est plutôt à l'écoute des choses qu'on lui propose. Après, le problème, c'est le problème de la politique, dans le sens qu'il y a aussi des besoins de logement, il y a des besoins de économiques, je pense, en général, et qui parfois dépassent un petit peu l'exigence. Mais moi, personnellement, j'aimerais beaucoup qu'il y ait beaucoup plus de verre, j'aimerais énormément voir beaucoup plus de parcs et des jardins partagés. Et beaucoup plus que maintenant, j'étais triste de savoir que certains espaces ont été libérés pour faire space, juste pour faire place à des immeubles. Mais je sais que c'est des discours assez complexes et qu'on ne peut pas seulement voir une chose comme des solutions sur l'aspect. Un truc que je ne savais pas, et je suis désolé parce que je monopolise la discussion et je ne sais pas, c'est d'un point de vue technique, on a tendance à essayer de mettre plus de monde à l'intérieur de la ville et moins vers l'extérieur parce qu'on dit qu'on bouffe moins, on mange moins de terrain agricole ou d'espace vert. Donc on essaye de concentrer les habitations où il y a déjà du béton. Donc on essaie de faire des bâtiments où on essaie d'augmenter la densité habitative à l'intérieur des villes plutôt qu'élargir les villes. Et c'est un choix qui a été fait justement pour éviter de bétoniser à l'extérieur ou de priver d'autres espaces parce qu'il y a eu quand même des endroits où effectivement les villes s'étalent, ils se rejoignent entre eux et finalement on perd un peu la partie végétale extérieure. Donc c'est un choix urbanistique, je ne sais pas si c'est correct, je suis désolé. Mais je pense que c'est même pas. Je pense que c'est au niveau national, voire européen. J'ai aucune idée comment ça se passe. Et donc pour faire ça, malheureusement, on a moins de parcs, on a moins de verre, et à l'intérieur de la ville, à détriment de la ville parfois, et un avantage des alentours. Je ne sais pas si c'est mieux ou pas bien. J'ai aucune idée. Moi personnellement, ça me fait mal au cœur parce que j'habite plutôt en centre-ville. J'aimerais bien avoir plus de verre. Mais d'un autre côté, si ça évite de faire d'autres constructions à l'extérieur, je ne sais pas. Et moi, j'avais une question. Je peux poser des questions, c'est illégal. Ok. Est-ce que ici, dans le, par l'événement, on va dire comme ça, vous regardez des films de, comment ça s'appelle, de fin de monde, de comment tu les appelais avant?
Catastrophe.
Des films catastrophiques. Est-ce que vous les regardez? Vous êtes habitué à les voir? Ça vous plaît? Levez les mains qui aiment, on va dire comme ça, pour avoir une idée. D'accord, quand même une bonne moitié, je pense, non? Ok, non, c'était une curiosité parce que moi, c'est un truc que je ne supporte pas, en fait. J'aime pas du tout.
Ça peut sensibiliser des gens pour éviter, quoi, c'est ça, quoi.
Ouais, non, c'est sûr. Mais le seul que j'avais bien aimé, c'était le Look Up. Bon, c'est pas grave.
Je sais pas, mais en tout cas, cette pièce de la Watt, je l'ai eue en regardant Le Jour d'après. C'est un film catastrophe.
D'accord.
Dans lequel New York se fait ensevelir sous la neige. J'ai eu cette idée en voyant le film, justement. Donc, finalement, c'est vraiment en regardant des films catastrophes que j'ai aussi, que ça nourrit aussi mon travail.
D'accord.
Finalement.
Okay. Ça fait penser au village en Afrique qui est ensevelu dans le sable.
Ouais, il y a aussi l'idée des dunes de sable qui avancent.
Qui avancent et qui
village. D'accord.
Oui, enfin, il y avait l'idée de la nuée ardente, de ces cendres qui viennent ensevelir des villes, et finalement, on est là-dedans, on est entre Pompéi, entre la neige, entre la cendre, entre la poussière qui est venue s'accumuler, et voilà.
Bah, tu me parles de Pompéi, moi je viens de petite ville à côté de Naples, donc oui, pas loin, quoi. C'est des questions qu'on se pose tout le temps et ça fait peur aussi. Ah, elle est toujours là et c'est un danger toujours présent. C'est pas.
Mais après, ça, est-ce qu'on peut considérer ça comme une catastrophe naturelle finalement, parce qu'on ne peut rien? Et une autre catastrophe qu'on crée, en fait, que l'humain crée à force de. Enfin, à force de carbone, à force des choses comme ça, quoi. Ça, c'est vraiment faire la différence entre les deux. Il y en a une qui est apocalyptique et l'autre.
Alors, vous soulevez une belle question, je dois dire la vérité, parce que en fait, je fais l'exemple des gaz à effet de serre ou de la pollution en général. La pollution, si elle est d'origine naturelle, ce n'est pas de la pollution. Un volcan, ça peut projeter des gaz à effet de serre hyper dangereux, ça peut faire... Bah, mais c'est naturel. Mais une usine, elle peut polluer.
Autant qu'un volcan.
Autant qu'un volcan, oui. Non, je ne pense pas autant qu'un volcan. Ça dépend du volcan. Mais dans tous les cas, oui, c'est sûr qu'il y a une vision de la. Comment dire, de la. Le gaz, ce n'est pas le gaz en tant que gaz, mais c'est en fonction de s'il a été produit par l'homme. C'est un polluant. Si c'est produit par la nature, ce n'est pas un polluant. C'est aussi parce que, en fait, le monde, c'est un équilibre. Et c'est un équilibre dynamique qu'on peut faire basculer d'un côté ou de l'autre en fonction de ce qu'on fait. Et un peu, c'est un peu le risque. Et c'est un peu le jeu aussi. On a encore le temps, je ne sais pas, parce que moi je parle, mais après, vous me dites, Mario, c'est tard, d'accord, quand il faut arrêter, vous me le dites. Et moi j'avais une autre question, c'était concernant la bébête.
Ouais.
En fait, la scolopente, donc on retrouve la circularité, et moi ça me fait penser à un entonnoir, en fait, parce que ça concentre vers l'intérieur, et... C'est fait exprès qu'il cache une partie, il y a la tête, elle est présente, elle n'est pas présente, on ne voit pas forcément.
Ouais, enfin, c'était plus dans l'idée de créer une sorte de plus de mystère autour de cette créature qui ressort comme ça du tas de ouates. Mais la circularité, en fait, elle est présente ailleurs dans l'expo, mais là j'avais envie aussi de m'inspirer un peu des ammonites et des fossiles qu'on a et des... Okay. Et des choses comme ça circulaires qu'on a un peu partout, des spirales et de tous ces motifs en fait de tourner en rond et de pas aussi trouver de solutions ou d'échappatoires à cet état, mais c'est surtout inspiré de ce que je vois au fac, en fait, des squelettes et des fossiles qui m'entourent, en fait, chez moi, et que je vois souvent, en fait. On est presque aussi dans l'ossement, quelque chose de mort et de figé, en fait, qui est presque... presque comme les gisants de Pompéi ou des choses comme ça, et qui est asséché aussi, parce que finalement, on a ces matières très très sèches, il n'y a pas beaucoup d'eau dans mon expo finalement, enfin, c'est pas très humide, on a peut-être juste la pâte à sel qui ramène aussi cette forme de matière organique et molle et humide, mais qui finalement finit par sécher d'elle-même dans l'exposition. Donc il y a aussi toute cette idée de sécheresse qui parcourt aussi l'exposition. Et t'as ramené un...
C'est rigolo parce que maintenant, c'est toi qui fais les présentations.
Je sais pas.
Ok, très bien. Bah oui, ça tombe bien. C'était pas du tout fait exprès, c'était pas du tout préparé. Mais c'est... Oui, t'as raison, la sécheresse, moi, ça me fait penser à l'eau. Mmh. Et donc à la pluie. Ça, c'est un pluviomètre. C'est un pluviomètre en métal à objet basculant. En fait, c'est composé de deux parties. Je vais essayer de le faire sans le faire tomber. Okay. Donc, une première partie, que c'est l'entonnoir. Donc, ici, ça a un diamètre précis. Parce qu'en fait, on a besoin de savoir combien d'eau tombe sur une déterminée surface. Parce qu'on va mesurer les millimètres de pluie. Les millimètres de pluie, c'est... Un millimètre de pluie, c'est un litre d'eau sur un mètre carré. Donc, en gros, ça, c'est un pied carré, en gros. Et en fait, à l'intérieur, il y a... Ça, je ne sais pas si tu le connais, en fait. Ça, c'est rigolo. C'est des objets basculants. Donc, l'eau tombe depuis le haut avec l'entonnoir et il va remplir une première conteneur, une première objet et qui tombe de l'autre côté pour le poids de la pluie. Et après, l'eau va remplir l'autre. Donc, il va faire 1, 2, 3, 4, 5. Et on a, comme ça, en comptant les basculements, on arrive à compter les millimètres de pluie. Le volume est connu, donc on connaît combien d'eau tombe à l'intérieur, on connaît le diamètre de l'entonnoir, on fait le calcul et on connaît combien de millimètres de pluie il tombe. Chaque basculement, c'est 0,20 millimètres de pluie. C'est pas beaucoup.
On est presque dans le tic-tac de l'horloge.
Exactement, exactement, exactement. Et c'est un peu le temps qui passe, on est d'accord. Et c'est une technologie assez ancienne, assez mécanique, c'est indestructible. C'est l'avantage de ce type de matériel. Et la chose que c'est super rigolo, je ne sais pas si j'arriverai à vous le faire entendre. Je pourrais essayer de faire vers le micro. En fait, en gros, on entend un tout petit tic, tic. En fait, à l'intérieur, il y a un aimant qui bouge en fonction du basculement des objets, qui permet de faire contact à un circuit électrique. Et donc, à chaque fois que le contact est présent, là, on peut enregistrer un basculement. C'est tout simplement, c'est très basique et très, 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 très efficace. Et donc, ouais, c'est ça. Si tu veux voir, si tu as envie. Si vous avez envie de regarder un instrument, je peux le faire passer. Hein. C'est du costaud. Donc, au moins, si vous ne frappez pas quelqu'un, ça va.
Okay. Et Nathan, tes prochains projets, peut-être avec l'eau pour non, les catastrophes maritimes, non, non,
je ne sais pas.
Tu restes dans la partie sèche ou,
Pour l'instant, je suis dans la partie sèche.
T'as quoi dans la prévision? T'as prévu quoi prochainement?
Je sais pas, prochainement j'ai surtout des résidences qui seront des résidences de recherche et pas forcément de production. Donc ça va m'amener à aussi questionner ce que je fais et savoir ce que je vais faire.
Okay.
Et voilà, enfin, c'est... Et toi, tu sur quoi tu vas travailler?
Eh ben, moi, je vais changer de travail. Je vais me basculer sur l'art, moi aussi. Non, c'est pas vrai. Malheureusement, non. Je vais continuer à travailler sur les projets sur lesquels je suis déjà et dans l'espoir de voir les choses qui s'améliorent au fur et à mesure. Et autre chose qu'on n'a pas du tout touché, c'était le tableau qui, au final, nous a conduit à parler ensemble.
Oui.
C'est un peu dommage.
Celui du bas.
Mais oui. Surtout qu'après, on y passe devant. À l'arrache, on ne le voit pas si on ne fait pas attention. Donc oui, explique-moi un petit peu cette photo.
Alors, c'est une pièce qui s'appelle Les Miettes. Elle est composée d'une image que j'ai prise à l'arrière de la côte des vins de Beaune. C'est une photo que j'ai faite à l'argentique et que j'ai volontairement bruitée pour aussi créer cette sorte de décomposition de la lumière et du paysage pour que ça devienne une sorte de quelque chose un peu de en petits points en fait. Et on a ce cadre autour que j'ai réalisé sur place directement qui est composé de sarments de vigne qui à l'origine étaient utilisés dans la maison de ma belle-mère pour allumer le feu. Et donc je suis venu aussi créer ce cadre en vigne sèche autour dans l'idée aussi de créer un objet presque comme les objets qu'on trouve dans les vieilles maisons, des objets un peu artisanaux comme ça en osier tressé et puis aussi dans l'idée du nid d'oiseau en fait avec cette idée des miettes de ce paysage qui s'émiette et qui s'effondre qu'on a dans la vidéo là-bas en fait de concasser le paysage et de le mettre en miettes en fait parce que tu travailles sur la vigne il me semble
c'est, enfin. Bah, en Bourgogne t'es un peu obligé de passer à la case vigne d'une manière ou d'une autre donc oui bien sûr on fait des études sur les maladies de la vigne, sur l'impact du climat sur, à la fois sur la vigne et sur les maladies et au-delà de ça moi j'ai fait les rapprochements quand tu me parles de tes œuvres et de tes concepts qui sont derrière. Donc je pense justement à la décomposition du paysage, je pense au sarment. Là, on vient de terminer la période pendant laquelle il coupe les vignes et il brûle les sarments pour après les faire devenir cendres et les rejeter dans le champ. Et moi, je me suis toujours posé la question, mais pourquoi les cramer? C'est dommage. En fait, on perd de l'eau, on perd de la ressource parce que quand on brûle, on va forcément détruire une partie de la matière organique. Et en théorie, pour les choses qu'ils m'ont dit, il y a une raison sanitaire, c'est-à-dire comme ça, s'il y a des bois qui sont malades ou qui ont des champignons dessus, on les brûle. Donc on essaie de sanifier un petit peu les sarments qu'on a coupés, le vieux bois qu'on a coupé de la vigne. Mais après, il y a de plus en plus de monde qui est en train de les moudre, on va dire comme ça, un peu comme le concasser à l'intérieur de la vidéo. Donc, il le casse et après, il le remet dans le sol. Ou encore, il y a des entreprises qui le reprennent et ils font des nouvelles matières. C'est de la technologie, c'est de l'innovation. Dès qu'il y a de la technologie, moi, je m'accroche et je m'intéresse. Donc, ils vont utiliser justement les sarments en les détruisant et faire des piquets pour les vignes. Donc c'est un peu toujours le retour à la vigne à travers de la matière qui finalement s'est révalorisée. Et ça, je trouve super intéressant.
La cendre, on peut faire de la lessive aussi avec
la main. Ben oui, complètement. C'est vrai. Et non, c'est sûr qu'en fait, on réutilise un peu la nature. Mais l'idée de restituer au sol ce que tu as donné, moi, je le trouve un peu poétique. Et en même temps intéressant. Et c'est un peu aussi, par contre, dans le même discours que tu faisais, donc des miettes de sarments de vigne qui revient dans le paysage qui est un peu émietté lui aussi. Donc c'est intéressant. Et c'est chouette. Comme on peut voir justement des choses d'une manière différente, c'est cool. Et ben, je sais pas. Est-ce que
vous avez des questions? Je sais pas.
Est-ce que ça vous Qu'est-ce que vous en pensez?
Par rapport à l'exposition, parce que finalement, l'exposition, il y a 12 heures. Finalement, ça n'en fait qu'une.
Oui, on peut voir l'exposition comme une installation. Ouais. On peut voir l'exposition comme un tout. J'ai aussi pensé l'exposition en une fois. J'ai ramené des anciennes pièces, mais il y a toujours cette idée de créer une narration complète entre toutes les pièces. Donc on peut aussi voir l'exposition comme une seule et même pièce qui n'existera qu'ici et qui n'existera plus ailleurs. Parce que finalement, je vais garder les pièces, mais elles seront montrées d'autres manières. Et il n'y a qu'ici qu'on la verra telle qu'elle est.
Ouais, la chose que j'aime de ce concept, c'est qu'en fait, on se balade ici et on ne sait pas vraiment où est l'œuvre. Parce qu'il n'y a pas la petite étiquette qui te dit œuvre. Donc ça j'aime beaucoup. Parce qu'en fait, toi, tu te balades et tu fais des stalactites. Ok. Mais est-ce que c'était déjà là? Est-ce qu'ils font partie de l'expo? Et ça, je trouve génial, en fait. J'aime beaucoup. Et je te remercie d'avoir pensé comme ça, parce que ça apporte quelque chose de plus. Moi, j'aime bien.
Oui, mais le problème, c'est quand tu vois les stalactites, tu te demandes, mais pourquoi les stalactites? Mm-hmm. Tu n'as pas forcément la réponse que Nathan a. Il y a différentes manières de les voir. Quelle est la bonne manière de les expliquer? Ça, on ne sait pas, quoi. Nathan va nous les expliquer d'une façon, mais bon...
Il n'y a pas de bonne manière, je pense.
Ouais, c'est... Toi, tu as une explication à toi. C'est ça qu'on voudrait éventuellement connaître quand on visite l'exposition.
On l'a. Et d'ailleurs, il y a un super texte que Andrea Sparta a écrit sur l'exposition qui raconte en fait notre appel... au moment où on parlait de l'exposition, et du coup il raconte hyper simplement les intentions que j'ai eues ici, et je peux pas dire que forcément il y a une manière de lire les choses, mais je pense qu'il y a une globalité aussi. Pour moi, l'essentiel, c'est que les gens ressentent des choses et pas forcément se demander le pourquoi du comment, et d'avoir un sens précis sur chaque pièce. Je sais pas.
Et après, je pense que tu es en train de demander qu'est-ce que c'est l'art, en fait, en gros, parce que c'est un peu ça. Hein. On peut pas. Hein. L'art, c'est quelque chose qui doit stimuler chacun. Donc. Merci dans tous les cas. C'était super intéressant. Merci. J'espère que c'était agréable pour vous aussi. Merci.